Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui on va avoir une nourriture solide et ça n'est pas vraiment pour les bébés spirituels, il va falloir vous accrocher et on va aller un peu plus loin dans les choses profondes de Dieu. Je voudrais que vous soyez affermis dans les choses de la foi et que vous ayez dans votre vie du succès dans vos prières, qu'elles soient exaucées. Et il y a des choses à dire qui sont rarement dites parce qu'elles font un peu peur, elles effraient. Vous savez, nous sommes dans la génération, nous savons Jésus revient, nous savons que les vierges folles et les vierges sages dorment, il faut que tout ça se réveille, il faut que vous ayez la nourriture nécessaire, il faut que vous ayez l'huile nécessaire, la réserve nécessaire pour pouvoir partir avec l'époux. Et on voit que dans l'Église à l'heure actuelle, même les chrétiens ont de la peine à recevoir leur guérison. Je veux dire, les choses ils ne savent même, ils savent, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent et pourtant ils devraient être très forts parce que jamais Dieu n'a demandé à son Église d'avoir la foi pour partir dans l'enlèvement. C'est nous, c'est cette génération à qui Dieu demande cela. Alors il faut avoir une foi qui est forte et non pas une foi sentimentale, émotionnelle. Il faut connaître les choses profondes de la parole de Dieu pour nous comporter comme des adultes et être sérieux. Alors on va lire et j'ai fait exprès de choisir une version qui n'est pas très connue. J'ai pris la version de la Bible, la parole vivante de notre frère Alfred Kuhn. Vous pouvez vous la procurer dans toutes les librairies chrétiennes. Hein. La parole vivante s'appelle cette version. Et je fais exprès parce que je trouve que c'est une bonne version. Parce que quand je lis là-dedans, je me dis, oh, c'est pas possible. C'est vraiment écrit ça. Et ça me pousse à aller lire les textes dans mes bonnes vieilles secondes. Parce que nous avons l'habitude de lire les textes dans la version seconde ou tob ou voilà. Et puis, des fois, il y a des choses qui nous échappent. Parce que vous savez, comme l'hébreu est une langue très riche et que le français est aussi une langue très riche, alors une seule version ne nous suffit pas à avoir véritablement la pensée précise. Il nous faut avoir plusieurs versions. Et la parole, cette version parole vivante est très riche. Alors je vais vous la lire parce que c'est un peu choquant. Et ça va vous aider à réfléchir, à retourner dans vos vieilles Bibles et voir, mais voilà, bon, j'avais jamais compris ça comme ça. Et ça va vous aider, ça va vous bénir. Alors, Jean chapitre 5, versets 10 à 30, on va faire une longue lecture, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, Jean 5, 10 à 30. Alors, les Juifs interpellent donc l'homme qui vient d'être guéri. Oui, parce que Jésus vient de dire à un homme, c'est le jour du sabbat, Jésus vient de lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors, les Juifs, c'est-à-dire les religieux, hein, appellent donc l'homme qui vient d'être guéri. Hey! Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais, réplique-t-il, celui-là même qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et quel est celui qui t'a dit cela? Lui demande-t-il. Mais l'homme qui avait recouvré la santé ignorait qui l'avait guéri, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Quelque temps après, Jésus le rencontre dans la cour du temple. Te voilà bien portant, lui dit-il, désormais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Et l'homme d'aller dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, de sorte qu'ils se mirent à poursuivre Jésus de leur haine, parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider de le faire mourir, non content de violer la loi. Sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père, dont il se faisait l'égal de Dieu. Ah, vous voyez, si on dit que Dieu est notre Père, on se fait l'égal de notre Père, c'est-à-dire on est de la même nature que lui. Ça, pour les religieux, c'est impensable. C'est impensable. Et Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Il donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut lui aussi donner la vie nouvelle à tous ceux auxquels il veut la donner. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes. Il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils. afin que tous les hommes rendent honneur au Fils au même titre qu'au Père. Refuser de rendre au Fils l'honneur qui lui est dû, c'est en fait le refuser au Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle, il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, le temps viendra, en fait, nous y sommes déjà, où les morts entendront l'appel du Fils de Dieu et tous ceux qui l'entendront reprendront vie. En effet, le Père est à la source de toute vie, et il a accordé au Fils d'avoir à son tour la vie en lui-même et d'être pour d'autres une source de vie exactement comme le Père. En même temps, il l'a investi en sa qualité de Fils de l'homme des pleins pouvoirs pour exercer le jugement. Que cela ne vous étonne pas, car voici venir le moment où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront l'appel du Fils de l'homme, au son de sa voix, ils en sortiront. Ceux qui ont bien agi ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être jugés et condamnés. En tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me demande et selon les informations que je reçois. Et mon verdict est juste, car il ne s'agit pas pour moi de réaliser mes propres désirs, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis vous voyez, voilà, ça c'est pour Jésus, mais il dit aussi il dit plus loin que si quelqu'un rejette un disciple de Jésus, eh bien il rejette Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est accompli, il est comme son maître. Quelqu'un qui rejette un serviteur de Dieu, attesté, confirmé par Dieu, c'est Jésus qu'il rejette. Mais c'est très important. Dans 1 Jean 4, 17, il est dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut rien faire de sa propre initiative. Il dit lui-même, il dit, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Pensez-vous que vous pouvez faire quelque chose de votre propre initiative? Vous ne pouvez pas. Il dit, il agit seulement, donc le Fils, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père parce que le Père aime le Fils et l'initie à tout ce qu'il fait. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. On va aller plus loin. On sait beaucoup de choses qui étaient des mystères et qui aujourd'hui n'en sont plus parce que Dieu se plaît à révéler les choses qu'il avait données à son Église, à l'ancienne Jérusalem, à son Église primitive. Il les révèle aujourd'hui, c'est le rétablissement de toutes choses. Les disciples d'alors, au temps de l'Église primitive, ils agissaient au nom de Jésus, c'est-à-dire de la part de Jésus. De la part de Jésus parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour qu'on agisse de la part de Jésus. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est qu'elle est entrée dans le cercle des amis de Jésus, elle connaît les choses que Jésus veut, alors elle les fait en son nom. Elle n'agit pas de sa propre initiative, elle agit au nom de Jésus, sachant ce qu'elle a à faire et ce qu'elle a à dire. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas au courant des intentions, des projets de leur maître, mais moi je vous appelle ami, hein, parce que, et puis vous êtes maintenant, vous m'avez suivi, vous écoutez ma voix, vous faites ma volonté, maintenant on est rempli du Saint-Esprit, alors je vous mets dans l'initiation, c'est-à-dire je vous mets dans la confidence, je vous dis les choses et puis vous allez pouvoir les faire. Un ami de Jésus, c'est une personne qui est en communion avec Dieu, c'est une personne qui est en communion avec Dieu et qui est donc tenue au courant des intentions de Dieu, c'est une personne remplie du Saint-Esprit, une personne remplie du Saint-Esprit quand elle prie selon la volonté de Dieu et c'est pourquoi elle est exaucée. Jésus ne dit pas que toutes nos prières seront exaucées. Même si on dit au nom de Jésus à la fin, ce n'est pas une formule magique de dire au nom de Jésus. Parce qu'en fait, il n'arrive que ce que Dieu veut sur la terre et dans les cieux. Tous les détails, Dieu s'en occupe. Et il n'y a que ce qu'il veut qui arrive. Même le nombre de nos cheveux sont comptés. N'est-ce pas? Alors, Matthieu chapitre 10, 30. Et sur la terre, il y a deux sortes de personnes, ceux qui font la volonté du Père et les autres. Matthieu 12, 50. Alors il va me dire, ah oui, donc, vous voyez, il y a des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Donc il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont. Dieu est surpris par ce qui. Non, non, attendez, attendez. On va voir les choses bien comme il faut. Les enfants de Dieu sont appelés à prier et à agir selon ce que Dieu veut. On va lire 1 Jean 5, 14, s'il vous plaît. 1 Jean 5, 14, toujours dans la parole vivante, où il est dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons une chose conforme à sa volonté, il nous écoute. Vous voyez, si nous demandons une chose selon sa volonté, si on demande quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, évidemment, il ne va pas le faire. C'est clair. Un enfant de Dieu est appelé à prier et à agir selon la volonté de Dieu. Voyons le cas de ceux qui sont rebelles à Dieu maintenant. Peut-on dire qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ceux qui sont rebelles à Dieu? On peut le dire. On peut le dire. Ils font des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut que ses enfants fassent. Mais sans savoir, ces rebelles font ce que Dieu veut. Je sais que ça peut vous paraître très étrange, mais écoutez, soyez des adultes. Cessez d'être des enfants. Écoutez, pensez-y. Soyez renouvelés dans l'intelligence par le Saint-Esprit. Écoutez bien, il y avait des gens très religieux qui lisaient les Écritures, qui les étudiaient, qui faisaient tout ce qu'il fallait. Et un jour, Jésus arrive. Lui, la pierre d'angle, la pierre fondamentale de l'édifice que ces religieux construisaient. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui, ces constructeurs religieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui, ces gens versés dans les Écritures? Ils ont rejeté Jésus, ils ont mis Jésus au rebut. Était-ce une bonne action? Non, c'était un crime. C'était un meurtre, c'était un procès truqué, c'était honteux, c'était scandaleux ce qu'ils ont fait. Maintenant, lisons Marc 12, Marc 12, verset 11. La pierre que les constructeurs avaient mise au rebut comme inutilisable est devenue la pierre fondamentale à l'angle de l'édifice. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est lui qui l'a voulu ainsi et nous en sommes tous émerveillés. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Cette pierre est devenue la principale de l'angle par la volonté de Dieu. On est tous d'accord avec ça. Que vous croyez ou non que Dieu tient tout parfaitement dans sa main, qu'il a tout prédestiné ou que vous ne l'y croyez pas, vous êtes d'accord là-dessus. Jésus est devenu la pierre de l'angle par la volonté de Dieu. Mais regardez le plan parfait de Dieu. Le plan qu'il avait préparé dès avant la fondation du monde. Dans ce plan, Jésus devait venir sur cette terre pour une heure bien précise. Laquelle? Jésus le dit. Il est venu pour l'heure de la croix. Il est venu pour le sacrifice. Jean 12, 27. Voilà pour quelle heure il est venu. Comment Jésus aurait-il pu être crucifié s'il n'y avait pas eu des gens pour le faire? Mes frères et sœurs, en le jugeant, ils ont fait la volonté de Dieu. En le condamnant injustement, ils ont fait la volonté de Dieu. En le livrant aux Romains, ils ont fait la volonté de Dieu. Ceux qui ont cloué ses mains et ses pieds, qui ont craché dessus, qui l'ont fouetté, ils ont fait la volonté de Dieu. Et quand Jésus fut élevé comme le serpent dans le désert, selon Jean 3, 14, qui était prophétisé, selon Ésaïe 53, qui était prophétisé à l'avance, Jésus dit à son père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que faisaient-ils ces religieux criminels? Ils étaient en train d'offrir Jésus en sacrifice sans savoir. Ils ne le savaient pas. Ils l'offraient en sacrifice pour le salut de tous ceux que Dieu avait prédestinés au salut. Acte 13, 48. Et tous ceux qui étaient destinés au salut, ils ont cru. Jésus le savait. Il était le seul à le savoir, à savoir que ces méchants, ces rebelles étaient en train de faire la volonté de Dieu. Il était tout seul, abandonné, monacos, solitaire, dans la souffrance. Il a accepté de mourir à notre place parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Jésus se levait le matin à l'aube pour prier. Il priait pour connaître le plan de sa journée. Jour après jour, il était en communion avec son Père qui lui montrait ce qu'il avait à faire. Tout ce que je vois au faire, au Père, je le fais. J'imite tout ce que le Père me montre de faire. Je le fais. Il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Voilà le secret de la prière exaucée. Je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer les choses. La prière ne change pas les plans de Dieu. Elle les accomplit. Et il y a une raison à cela. Et je vais y venir. Ne perdez pas le fil. Ne soyez pas distraits. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Jésus. Allez à sa rencontre. Priez-le et écoutez-le. Si vous l'écoutez, vous saurez comment agir, vous saurez comment vivre une vie accomplie et vous aurez enfin une vie de prière exaucée. Vous ne prierez pas à tort à travers n'importe comment, n'importe où. Frères et sœurs, je ne vais pas rendre témoignage de moi-même. Je ne vais pas vous raconter ma vie et les miracles et tout ça. D'ailleurs, je crois déjà dans Révélation Bible, il y a déjà beaucoup de choses. Je ne vais pas encore... Mon témoignage ne vaut pas grand-chose en fait si je parle de moi-même. Voilà, je pense que c'est mieux que je rende témoignage d'autres hommes de Dieu qui sont plus importants que moi et qui ont fait des choses plus grandes et qui sont maintenant partis vers le Seigneur. Et je voudrais. Ma vie a été particulièrement marquée par la vie de prière exaucée d'un homme de Dieu remarquable. Je sais qu'il n'est pas aimé dans les églises, on critique, voilà, tout ça, mais bon. Cet homme s'appelait William Marion Branham. Vous voyez, Dieu sait tout. Et je voudrais vous raconter quelque chose, je voudrais vous lire quelque chose d'important pour que vous arriviez à comprendre ce que Dieu, là où Dieu veut vous emmener. Il sait tout. Il faut que les choses soient comme elles doivent être. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans la biographie de cet homme de Dieu. Je vous lis là pour quelques moments, mais bon, ça vaut la peine. Vous savez, il y a des livres entiers qui ont été écrits au sujet de la prédestination. Je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les réponses là, aujourd'hui, par une seule prédication, mais de vous mettre au moins sur la voie afin que vous sachiez comment tourner votre esprit, votre pensée devant Dieu, afin de comprendre quelle est sa façon d'agir, quel est son plan. Je vous lis ce passage. C'est l'homme de Dieu, il est là, il dit « J'étais chez ma mère un soir et j'avais prié ce jour-là et il me semblait que je ne pouvais simplement pas avoir la victoire dans mes prières. Aussi, j'allais dans ma chambre pour prier. Il était environ 1h du matin quand tout à coup quelque chose de blanc s'approcha de moi et je pensais que c'était cette pile de vêtements que maman avait l'habitude de mettre sur ma chaise. Mais c'était l'ange du Seigneur. » Et vous, aujourd'hui, de nos jours... Les chrétiens qui entendent des anges, qui voient des anges, on n'en voit pas des masses. Et pourtant, les anges sont là. Et voilà, seulement, voilà, c'est plus la mode. Hein. On y en écoute, on ne croit plus ces choses. C'était bon pour les actes des apôtres, mais aujourd'hui, voilà, bon. Si vous venez dire que vous avez un ange qui vient vous parler, on va vous regarder comme si vous êtes un martien. Hein. Et pourtant, c'est des choses bel et bien bibliques. Et là, cet homme, il avait cet ange est venu. Donc, je recommence ma lecture. Et cet ange du Seigneur, cette nuit, vous savez, vint là où j'étais. Je me vis debout dans une chambre. C'était une petite maison à deux chambres. Les murs étaient lambrissés en rouge. Donc, il est entré dans une vision, vous comprenez? À ma droite, il y avait un petit lit de fer et une femme aux cheveux noirs se tenait debout contre la porte et pleurait. Il y avait le père près de moi qui m'avait apporté un bébé dont les deux jambes étaient recroquevillées sur la poitrine. Ses deux bras, comme tout le reste de son petit corps, étaient aussi tordus. Je me demandais, mais qu'est-ce que cela signifie? Je vis assise à ma gauche une vieille dame enlevant ses lunettes pour y essuyer des larmes ou quelque chose. À ma droite, sur un divan rouge à deux places qui allait de pair avec la chaise, était assis un jeune homme blond, frisé, regardant par la fenêtre. Je regardais et à mon extrême droite se tenait cet ange du Seigneur qui me demanda « Cet enfant peut-il vivre ?» Je répondis « Monsieur, je ne sais pas. » Il dit « Étends tes mains sur lui et il vivra. » Je le fis, et l'enfant sauta hors des bras de son père, et tout son côté droit, sa jambe, son bras, son corps se redressèrent. Il fit un autre pas, Et l'autre côté se redressa, il mit sa petite main dans la mienne, disant: Frère Branham, je suis parfaitement guéri. Ce petit portait une salopette en corduroy bleu, avait les cheveux bruns et une très petite bouche. Je vais un peu plus loin parce que là, il rentre dans des détails. À ce moment-là, je pouvais entendre quelqu'un appeler: Frère Branham ou Frère Bill. Et ma mère appelait aussi. Sortant de cette vision, en quelque sorte un peu grisé, je demandais: Qu'y a-t-il, maman? Vous comprenez, il est en train de prier, l'ange du Seigneur est venu vers lui, il est entré dans une vision, il a vu cette chambre, toute cette scène, toutes ces choses qui se passaient, et puis voilà que tout à coup, il entend sa mère qui l'appelle. Qu'y a-t-il, maman? De l'autre chambre, elle répondit: Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. J'allais ouvrir, et un homme entra, disant: Frère Branham, vous ne vous souvenez pas de moi? Je répondis: Non, je ne crois pas que je peux. Il dit: Vous m'avez baptisé, moi et ma famille, mais j'ai fait fausse route. J'ai tué un homme il y a quelque temps dans une bataille. Il s'est cassé le cou à la suite d'un coup de poing. J'ai perdu mon fils aîné et le plus jeune est à la maison mourant. Le docteur qui vient de nous quitter m'a dit que l'enfant avait une double pneumonie. Il peut à peine prendre son souffle. Eh bien, je me suis souvenu de vous et je me demande si vous ne viendriez pas prier. Maintenant, vous savez, je suis le cousin de Graham Snail. Et je m'en vais le chercher. Il demeure à environ un demi-mille d'ici. Viendrez-vous? Son nom était John Emil. Il vit à Miami maintenant. Et Graham Snelling, alors un bon garçon chrétien, est aujourd'hui le révérend Snelling, mais il n'était pas encore dans le ministère en ce temps-là. Je répondis: Oui, monsieur Emil. Aussitôt, je me suis habillé. Il dit: Je vais repasser vous prendre aussitôt que j'aurai pris Graham, parce que je veux que vous priez tous les deux pour le bébé. Pendant que nous étions en route, je lui demandais: Monsieur Emile, où demeurez-vous maintenant? Il répondit: De l'autre côté de l'Utica. Je dis: Vous demeurez dans ces petites maisons qu'on appelle Shotgun House, ayant deux petites chambres et situées sur une colline? Oui, monsieur. Je dis: Les murs sont faits de planches en languettes rainurées et peintes rouges. Il dit: C'est exact. Je dis: Le bébé est couché dans un lit de fer et il a dans la maison du moins une salopette en corduroy bleu. Il dit: Il les porte justement. Le bébé est tout petit, il a environ 3 ans. Il a les cheveux bruns pâles et une très petite bouche. Il dit: C'est juste. Je dis: Madame Émile est une femme aux cheveux noirs et cette chambre a un divan rouge à deux places et une chaise rouge. Il demanda: Y êtes-vous déjà allé, frère Wanham? Il y a juste un moment, répondis-je. Il y a un moment, mais je ne vous ai jamais vu, dit-il. Je répondis: Non, c'était en esprit, monsieur Émile. Puisque je vous ai baptisé, vous m'avez entendu parler des choses qui m'arrivent. Je vois des choses avant même qu'elles se produisent. Il répondit: Oui. Est-ce que quelque chose de semblable serait arrivé, frère Branham? Je dis: Oui, monsieur Émile. Et jamais rien, peu importe ce qui m'était dit, ne s'est avéré faux. Votre bébé va être guéri quand j'arriverai là-bas. Il arrêta sa voiture, s'affaissa sur son volant, disant: Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Reprends-moi, ô Seigneur. Je te promets que je vivrai pour toi le reste de mes jours, si tu épargnes la vie de mon bébé. Et là, il donna son cœur à Christ. Nous entrâmes dans la maison, tout excités à son égard. Une âme venait juste de revenir à Christ. Une fois entrée dans la maison, toute chose était exactement telle, sauf que cette vieille dame n'était pas là. Tout énervé, j'ai dit: Amenez-moi le bébé. Or, ce bébé était sur le point de mourir. Le père m'amena le bébé, je priais, et sa condition empira. Il perdit son souffle. Ils durent combattre, le secouer, ainsi de suite, pour le faire respirer. Je pensais: Maintenant, il y a quelque chose de faux. Je me suis mis à réfléchir. Où est cette vieille dame? Ainsi, ils durent recoucher le bébé, essayant de le décongestionner parce qu'il respirait à peine. Sa mère se lamentait d'une façon hystérique. Je pensais: À cause de ma stupidité, j'ai mal utilisé la vision de Dieu parce que je n'ai pas attendu, étant trop énervé. Ainsi, j'ai appris une leçon à ce moment-là. Ils pensèrent que le bébé allait mourir d'une minute à l'autre. Pendant que j'étais assis, ils continuaient à me demander: Frère Branham, que devons-nous faire? Je répondis: Je ne sais pas. La tête inclinée, je suppliais: Seigneur, pardonne-moi. Quand le jour arriva, le frère Graham Snelling, oh, je n'arrivais pas à le dire, hein, devait retourner travailler et monsieur Émile devait le ramener. Je savais qu'il me fallait quitter la maison. Et pourtant, le frère Graham était supposé être assis sur le divan où j'étais assis. Monsieur Émile prit son manteau. Je savais bien que si frère Graham partait, il serait difficile de savoir s'il reviendrait jamais. Monsieur Émile me demanda: Frère Bill, voulez-vous que je vous ramène à la maison? Je répondis: Non, j'aimerais simplement attendre si cela vous fait rien. Je détestais d'être obligé de dire cela et rester dans la maison juste avec la mère et l'enfant parce qu'ils étaient un jeune couple. Frère Graham mit son manteau et se dirigea vers l'extérieur, et l'autre dit à sa femme: « Je serai de retour dans un moment. » Je pensais: « Oh Dieu, je devrais alors rester ici toute la journée et peut-être encore toute une nuit, attendant cette vision. Que puis-je faire? » Et regardant à la fenêtre, voici qu'arrivait la grand-mère de l'enfant au coin de la maison. Elle portait des lunettes. Je pensais: ça y est, Seigneur, si seulement Graham ne sortait pas. Elle avait l'habitude d'entrer par la porte avant, mais cette fois-ci, sans savoir pourquoi, elle vint par la porte arrière et entra dans la cuisine. La jeune femme courut se jeter dans les bras de sa mère et l'embrassa. Sa mère demanda: Est-ce que le bébé va mieux? Maman, cria la jeune femme, il est en train de mourir. La grand-mère se mit à pleurer. Je ne pouvais rien dire, juste attendre. Frère Graham fit le tour. Je me levai afin qu'il puisse s'asseoir et parce que c'était de sa parenté. Il se mit à pleurer aussi. Je pensais: si seulement cette dame âgée pouvait venir s'asseoir dans cette chaise rouge. J'allai vers la porte où Monsieur Émile attendait, son manteau sur le dos, prêt à partir par ce temps très froid. La mère de l'enfant leva les mains bien hautes et commença à pleurer exactement comme dans la vision. Puis la dame âgée prit le siège et chercha un mouchoir. Pas tant pour essuyer ses larmes, mais comme pour enlever la buée de ses lunettes. Je dis: Monsieur Émile, avez-vous encore confiance en moi en tant que serviteur de Christ? Il répondit: Certainement, frère Branham. Je dis: Je peux vous dire maintenant que tout est à l'heure. J'ai devancé la vision. C'est pourquoi ce n'est pas arrivé. Si vous avez toujours confiance en moi, allez me chercher le bébé. Il répondit: Je ferai tout ce que vous me dites, frère Branham. Il amena le bébé et je mis mes mains sur lui et priai: Seigneur, pardonne ma stupidité, la stupidité de ton serviteur. J'ai parlé avant la vision. Mais maintenant, qu'on sache que tu es le Dieu du ciel et de la terre. Je n'en dis pas davantage que le petit garçon attrapa son père par le cou et commença à crier: Papa, je me sens bien maintenant. Je dis: Frère Émile, laissez faire l'enfant. Ça va prendre 3 jours pour que cela le quitte parce il doit y avoir 3 étapes de dégagement. C'était le lundi. Je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à l'assemblée, leur disant: Mercredi soir, avant la réunion, j'y retourne et je voudrais que vous y soyez tous. Une fois sur les lieux, vous vous placerez autour de la maison et vous vérifierez quand j'entrerai là si ce petit bébé de 3 ans ne traverse pas la pièce à ma rencontre, ayant une petite moustache parce qu'il a bu du lait au chocolat ou autre chose. Et il me prendra la main et dira ceci: Frère Bill, je suis parfaitement guéri. Vérifiez si cela n'arrive pas. Comme ils étaient des gens pauvres, nous leur préparâmes un petit panier de provisions. Je n'avais pas d'auto à cette époque-là. J'avais emprunté le vieux camion de la compagnie des services publics. Ce soir-là, tout un chargement y alla. Ma femme, Meda, faisait partie du groupe, mais c'était bien avant qu'on se marie. Je m'arrêtai juste devant la maison et frappai à la porte. La mère m'ouvrit, disant: Oh, c'est frère Bill. Dans le coin, le petit garçon jouait. C'était le troisième jour. Je me suis arrêté. Je n'ai pas dit un seul mot. Les autres regardaient dans les fenêtres à ce moment-là pour voir ce qui arriverait. Et l'enfant marcha vers moi avec sa petite moustache de lait au chocolat. Et il mit sa main dans la mienne et me dit: Frère Bill, je suis parfaitement guéri. Vous voyez, voilà où Jésus veut nous emmener. Excusez-moi, je suis ému. Dieu sait tout. Il a préparé toutes choses à l'avance et il veut que nous entrions dans son plan. Il ne faut pas essayer de devancer Dieu. Il ne faut pas essayer d'agir d'après notre propre initiative. Il faut savoir attendre Dieu. C'est ce que j'apprends à pratiquer. C'est ce que j'apprends à pratiquer. Jésus ne faisait que ce qui lui avait été montré, que ce qu'il voyait faire au Père. Et il veut que nous en arrivions à ce stade. Il a dit: ce que j'ai fait, vous ferez encore des plus grandes. En attendant, alors que nous sommes en train de mûrir, en train de marcher de progrès en progrès, Dieu ne nous en veut pas de prier à tort et à travers comme nous le faisons, à prier pour ceci, à prier pour cela. Mais il n'y a que ce que Dieu veut qui arrive. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous sommes appelés à faire les mêmes choses, de la même manière que Jésus. Alors, on apprend par la lecture de la parole de Dieu, on apprend par les expériences qu'on fait. Ça demande de l'humilité. La sagesse de Dieu, c'est pas notre sagesse. Le sens de la justice, Dieu n'a pas le même sens de la justice que nous. C'est à nous de nous conformer à lui et non pas à lui à se conformer à nous. C'est pas à lui de faire ce que nous lui disons de faire. C'est à nous de faire ce qu'il nous dit de faire. Je ne prétends pas répondre à toutes les questions sur la prédestination. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit, cherchez et vous trouverez. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Paul l'explique dans Romains 9, 14. Parce que déjà à l'époque, il y avait des chrétiens qui se posaient des questions en disant « Mais ce n'est pas juste, pourquoi est-ce que Dieu endurcit Pharaon ?» C'est vrai, Dieu envoie Moïse pour lui dire « Laisse partir mon peuple » et en même temps, il endurcit Pharaon pour pas qu'il laisse partir le peuple. Alors, il y a beaucoup de choses, vous voyez, on se pose des questions, on dit « C'est pas juste » ou « C'est hypocrite » ou ceci ou cela. Mais non, Paul est obligé de leur dire « Mais non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. » Il ne fait que ce qu'il a décidé de faire. Et puis il ajoute, un peu excédé, « Mais pauvre mortel, mais qui es-tu donc pour critiquer Dieu, pour discuter avec lui ou lui demander des comptes ?» Romains 9, 20, vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des chrétiens qui se posaient des questions comme ça. Dieu nous a dit de prier selon sa volonté. Il ne nous a pas trompés. Il a dit « Priez si vous demandez quelque chose selon ma volonté, ça vous sera donné. Cherchez donc à connaître la volonté de Dieu. » D'abord dans sa parole. Beaucoup de gens cherchent à connaître la volonté de Dieu en priant. Ils voudraient qu'un ange leur apparaisse, comme à frère Branham ou d'autres. Ils voudraient des... Mais déjà, ils ne connaissent pas la parole, la volonté écrite de Dieu. Dieu ne devance pas les choses. Il faut d'abord que vous connaissiez la volonté écrite de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il veut. Et puis dans la prière, comme Jésus, comme les serviteurs de Dieu qui sont exaucés, allez dans la prière et puis recevez les indications que Dieu veut vous donner pour que vous ayez une vie de succès dans la prière. Parce que finalement, mes frères et sœurs, la prière, elle ne sert pas seulement à exaucer les gens, il faut réfléchir. La prière, c'est un des moyens que Dieu utilise pour se glorifier. C'est ça d'abord. Il veut nous associer à cette gloire pour montrer à l'ennemi sa sagesse infiniment variée. Voilà pourquoi il veut que nous prions. Écoutez bien, Éphésiens 3, 10 nous dit, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça c'est des choses mauvaises, toutes ces puissances mauvaises qui sont dans les lieux célestes, elles connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le diable voit Dieu. Dans Job 1, 6, il nous est dit qu'il se présente devant Dieu, il discute avec lui, il le voit, il le connaît. Et puis nous non, moi je n'ai jamais vu Dieu. Je pense que vous non plus, vous n'avez jamais vu Dieu. Et puis le diable est là, et il nous attaque, et il nous envoie des maladies, et il nous envoie des problèmes, et il nous attriste par toutes sortes de choses. Et puis au milieu de toute cette confusion, au milieu de toute cette souffrance, de tout ce malheur, de toutes ces trahisons, de tous ces chagrins, eh bien, le diable voit que nous relevons la tête, nous élevons nos mains vers le ciel en disant « Mon Dieu, parle-moi par ta parole, parle-moi par ton esprit, j'invoque ton nom, je te prie, ô Dieu. » Quand le diable nous voit faire ça, mais il est obligé de reconnaître que Dieu est infiniment plus sage qu'il ne le croit lui-même. Bien, mes frères et sœurs. Donc la prière, ce n'est pas un jeu. Dieu veut que nous prions afin de démontrer au diable, au démon, qu'il est infiniment plus sage que ce pauvre diable ne le croit. Je vous dirai d'autres choses encore au sujet de la prière exaucée. Il y a des étapes. On ne peut pas devancer les étapes. Si déjà vous n'avez pas le courage d'imposer les mains malades, ne pensez pas que vous allez pouvoir aller plus loin. Il y a déjà des choses à faire. Voici tous ceux qui croiront, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Après, à partir du moment où vous commencez à le faire, après Dieu peut se servir de vous. Il va investir en vous. Voyant que vous êtes fidèle dans les petites choses écrites, il va vous confier des choses plus grandes qu'il va vous révéler. Et puis vous pourrez avoir des révélations sur les gens. Ou alors il vous parlera comme à d'autres serviteurs de Dieu, comme Branham ou d'autres, et il vous inspirera. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas obligés de vous raconter toutes leurs histoires et tout ce qui se passe dans leur vie privée avec Dieu. Il faut que vous aussi, vous ayez une vie privée avec votre Seigneur et que vous alliez dans la prière pour rechercher toutes ces choses. Dieu veut vous parler. Il veut vous dire des choses afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais déjà, si vous n'écoutez pas ce qu'il dit dans la Bible, il ne va pas prendre la peine de vous parler directement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut que vous soyez sages. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage à être des gens mûrs, à mûrir du moins, pour sa gloire, pour votre bien-être aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que d'habitude aujourd'hui, mais je pense que c'était bon. Que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs. Merci Seigneur de les garder dans ta paix et de les aider à aller plus loin dans leur vie de consécration avec toi, qui est le Dieu qui sait tout à l'avance, qui a tout préparé à l'avance, qui a préparé les bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Merci Jésus. Amen.